Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des rendez-vous du reporting de durabilité de PwC, épisode dédié aujourd'hui au contrôle interne. Donc on va vous partager les enjeux spécifiques au contrôle interne, notamment dans le cadre de la CSRD, mais aussi nos retours d'expérience et nos bonnes pratiques pour engager ce chantier. Plus concrètement, en termes d'agenda pour ce temps que l'on va passer ensemble, on démarrera avec une partie introductive où on va vous expliquer pourquoi on vous parle de contrôle interne aujourd'hui avec la CSRD, mais aussi, étant donné qu'aujourd'hui, on a un public assez hétérogène et on en est ravis, avec à la fois des fonctions sustainability, RSE, des fonctions finance, des fonctions contrôle interne, conformité, risque, etc., on va reprendre rapidement le contexte relatif à la CSRD et puis quelques notions basiques sur le contrôle interne. Par la suite, on développera selon les trois sections suivantes que vous voyez affichées ici, nos convictions. En premier lieu, notre conviction sur le besoin de prioriser les travaux de contrôle interne. Par la suite, la nécessité de travailler sur les flux de données du reporting de durabilité. Et enfin, comment structurer, documenter, matérialiser le contrôle interne. Ensuite, nous finirons donc sur une section de conclusion et de questions et réponses. Alors, aujourd'hui, pour animer ce webcast, j'ai la chance, côté PwC, d'être accompagnée de Charlotte Gabé, qui fait partie de mon équipe, et moi-même, je suis Caroline Naït-Merabet, associée en charge chez PwC des enjeux de développement durable sous l'angle risque et contrôle interne. Et surtout, avec nous, on a le plaisir de recevoir Cédric Marais et Corinne Colloc, que je vais laisser se présenter tous deux et dire quelques mots sur leur organisation.
Eh bien, bonjour Cédric, à tous. Technip Énergie, c'est une société qui a 65 ans, qui emploie 15 000 employés à travers 34 pays. Et Technip Énergie, ce que j'appellerais parfois aussi TEN, est un acteur mondial d'ingénierie et technologie pour la transition énergétique. Nous sommes une entreprise de droit hollandais dont le siège opérationnel est à Nanterre et nous sommes cotés à Paris au SBF 120. Donc, je suis Cédric Marais, je suis VP Group Accounting et Finance Efficiency. Dans mon portefeuille de responsabilité, on va retrouver la consolidation, la finance des entités corporates, aussi le centre de services partagés que nous avons en Inde qui emploie 500 collaborateurs. Et enfin, raison de ma présence aujourd'hui avec vous, le contrôle interne et le CSRD reporting. CSRD reporting qui sera applicable dès l'année 2024 pour Technip Energies, avec une première déclaration en 2025.
Merci beaucoup Cédric. Corinne ?
Bonjour à tous, Corinne Colloc, donc je suis directrice de l'audit du management des risques et du contrôle interne à Naval Group. Naval Group est une société détenue par l'État français et par Thales à 35%. Notre activité, c'est la conception, la réalisation et le maintien en France et à l'international de sous-marins et de bâtiments de surface militaires. Nous avons un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, nous avons 18 000 employés. Et nous ne sommes donc pas une société cotée. Donc, Naval Group fera son premier rapport de durabilité début 2026 sur les données de l'année 2025. Et puis, j'en profite pour dire aussi que je suis également administratrice et vice-présidente à l'IFACI, l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, et ce depuis 2019. Et je suis ravie de participer à cette conférence puisque nous avons eu durant les deux dernières années avec PwC, l'IFACI et PwC, une coopération pour réellement réfléchir à ce qu'impliquait la CSRD sur les métiers du risque et du contrôle interne.
Tout à fait. Merci beaucoup de le rappeler, Corinne, et merci à tous les deux pour votre présence aujourd'hui et vos partages d'expérience. Sans plus attendre, je vous propose donc de passer à cette première partie introductive sur pourquoi on vous parle de contrôle interne aujourd'hui avec la CSRD. Et pour cela, je donne la parole à Charlotte.
Merci, Caroline. Alors effectivement, bonjour à tous. Et pour commencer la session d'aujourd'hui, on va revenir sur le contexte et le contexte qui environne le sujet du contrôle interne et la CSRD. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez particulier. En Europe, la CSRD vient bousculer un petit peu les cartes et ce qu'il faut retenir lorsqu'on envisage cette nouvelle réglementation et plus particulièrement lorsqu'on considère la question du contrôle interne, c'est qu'il faut garder en tête que cette évolution du cadre réglementaire vise à, pour le reporting de durabilité, aujourd'hui connu en France sous le régime de la DPEF, à s'apparenter aux exigences et aux attentes qui sont propres au reporting financier. Ce qui veut dire que dès l'entrée en vigueur de la CSRD, des attentes classiquement attendues pour le reporting financier en matière de comparabilité de la donnée, en matière de transparence ou en termes de standardisation ou de qualité de la donnée vont s'appliquer au reporting de durabilité. Concrètement, ce changement se traduit donc avec la mise en place de la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui était donc un texte chapeau qui s'accompagne, comme vous le savez déjà tous, de standards qui sont spécifiques et sur lesquels on aura l'occasion de revenir. En parallèle de ces textes-là, on a évidemment le package relatif à la taxonomie et un certain nombre de textes aussi viendront compléter ce dispositif à l'avenir, notamment en matière de CS3D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de contrôle interne et quelles sont les attentes à garder en tête plus largement ? Avant de rentrer dans le détail du contrôle interne, il est important de garder en tête que c'est un calendrier aujourd'hui, au niveau de l'Europe, qui est progressif mais qui reste très ambitieux. On en est à notre énième rendez-vous du reporting de durabilité. Beaucoup d'entre vous nous ont déjà suivis et vous êtes nombreux à savoir que le calendrier d'implémentation est progressif en fonction des différentes tailles et statuts des entreprises. Néanmoins, il est important de garder en tête que les textes finaux ont été adoptés en fin 2022. La transposition française est passée en fin 2023. Donc aujourd'hui, les règles du jeu sont cadrées pour tout le monde. L'entrée en vigueur est en revanche progressive. On ne va pas revenir en détail sur les spécificités de chacun des statuts d'entreprise, mais effectivement, les premières entreprises soumises aujourd'hui encore à la NFRD vont pouvoir entrer en application dès le 1er janvier 2025 sur l'exercice 2024 qui a donc déjà commencé. Viendront par la suite les new joiners, donc l'année suivante, suivis par la suite de différents statuts, notamment pour les PME cotées et pour les groupes non européens qui seront soumis à la réglementation. Donc, dans ce contexte qui veut dire que les choses bougent, il est important de revenir sur le socle du sujet sur lequel aujourd'hui on va vous accompagner avec un an de contrôle interne. Revenons donc sur ces fameux standards qui viennent compléter les textes de CSRD. Pour rappel, ils sont au nombre de 12. Deux standards aujourd'hui sont des normes transversales qui viennent fixer les exigences générales et les informations générales pour les entreprises qu'elles devront publier. Ces deux standards, ESRS 1 pardon, et ESRS 2, sont en quelque sorte les règles du reporting que toute entreprise devra suivre. Ensuite, viennent s'accompagner des standards qui sont organisés sur trois piliers, environnemental, social et de gouvernance. Ces 10 standards sont organisés par sujet. Ils vont dans un détail d'analyse et un détail d'exigence assez poussé. Vous avez l'occasion d'avoir différents rendez-vous du reporting de durabilité qui vous permettent certains focus. Mais ce qu'il est important de garder en tête lorsque l'on envisage la question du contrôle interne, c'est que le contrôle interne doit donc s'appliquer sur chacun de ces sujets-là. Et aujourd'hui, nous avons donc connaissance de tous ces standards qui sont cross-secteurs, mais il faut garder en tête qu'à l'avenir, d'autres standards complémentaires viendront compléter ce corpus et qu'il faudra, du coup, pour chaque entreprise, être vigilant à ces évolutions et à ces exigences particulières. On a choisi de revenir sur un principe important. Cette nouvelle réglementation, la CSRD, vient pousser de nouvelles exigences en termes de transparence, mais elle apporte aussi de gros changements en termes de processus d'élaboration du reporting de durabilité. Parmi eux, un principe a priori simple, mais aussi exigeant, c'est le principe de la double matérialité. Ce sujet-là, qui encore il y a quelques années était vraiment très novateur pour toutes les sociétés, est aujourd'hui bien connu de tous. Mais pour faire très très simple et revenir sur ce principe même, on a souhaité vous représenter ici les deux angles, les deux orientations à considérer lorsqu'on évoque le processus de double matérialité. Sur la droite, vous avez ce qu'on appelle la matérialité financière ou « outside in ». Simplement, dit plus simplement, c'est la considération des risques et opportunités, aujourd'hui prospectifs ou à venir, sur la performance financière de l'entreprise. Sont à considérer le court, moyen et long terme, mais on évoque bien les enjeux de durabilité qui peuvent bousculer positivement ou négativement la performance actuelle ou à venir des sociétés. En parallèle de cette dimension donc dite financière ou plus classiquement sur les risques, il est important de considérer, lorsqu'on envisage le principe de double matérialité, la matérialité d'impact, inside out. Autrement dit, les impacts positifs et négatifs qu'une société, qu'une entreprise peut avoir sur les personnes ou sur l'environnement, qu'ils soient réels ou potentiels, qu'ils soient positifs ou négatifs, et encore une fois, dans une dimension court, moyen et long terme. Pourquoi il est important de garder ce principe en tête? C'est que la double matérialité est un processus qui est structurant sur le futur reporting de durabilité, puisque c'est l'exercice qui permettra de définir les enjeux matériels, les IRO matériels, donc les impacts, risques et opportunités matérielles sur lesquels les sociétés devront donc être transparentes avec un certain nombre d'exigences de transparence et de données quantitatives et qualitatives à fournir. Un point important sur ce dispositif, on le rappelle ici, c'est un exercice qui doit prendre en compte les perceptions des parties prenantes impactées, élément encore nouveau dans la CSRD, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ces deux éléments sont importants car en matière de contrôle interne, il faut bien l'avoir en tête car il vient rajouter une couche de complexité à un dispositif déjà de production de données qui n'est pas aujourd'hui très simple. Donc, une fois qu'on a rappelé le contexte, ce qu'il est important de voir, c'est quel est le lien entre la CSRD et le contrôle interne. Qu'est-ce que disent les textes? Qu'est-ce que sont les exigences? Il est aujourd'hui important de revenir dessus afin que vous soyez tous en capacité de pouvoir répondre à ces exigences. Il faut déjà bien les comprendre. Si l'on résume aujourd'hui les exigences en matière de contrôle interne sur la CSRD, on peut les organiser autour de trois piliers principaux. En matière de responsabilité, la CSRD, donc le texte lui-même, vient poser de nouvelles responsabilités au comité d'audit. Dans la transposition en droit français, cette responsabilité du comité d'audit est possible d'être déléguée à un autre comité du conseil d'administration. On reviendra en détail sur ce que ça veut dire, mais il est important de garder en tête que le texte lui-même de la CSRD vient poser une responsabilité au conseil d'administration sur le dispositif de contrôle interne et en exigence à ses administrateurs d'en être transparents et redevables. Le deuxième point sur la transparence, c'est que les standards, le standard ESRS 2, donc qui fixe les règles générales, dans son point GOV 5, définit les exigences spécifiques de transparence sur le dispositif de contrôle interne du processus de reporting de durabilité. Encore une fois, on va pouvoir détailler ces éléments-là, mais il est important de garder en tête que cette exigence même a été précisée dans les standards qui sont aujourd'hui applicables à toutes les sociétés qui sont soumises à la CSRD. Et enfin, le troisième point, relatif à l'audit externe. Donc, là-dessus, il est important de garder en tête que même si aujourd'hui, les sociétés qui sont soumises à la NFRD en France ont l'habitude, ou en tout cas, sont déjà soumises à une vérification vers les tiers, les règles du jeu changent, notamment en matière d'audit externe, et on y reviendra. Et c'est pourquoi il est important que pour les fonctions d'audit interne ou pour les acteurs du contrôle interne, de se mobiliser sur les sujets. Alors, si l'on revient sur la question de la responsabilité, aujourd'hui, les responsabilités connues et déjà entérinées sur le comité d'audit ou sur le conseil d'administration ont été transposées en matière de reporting de durabilité sur l'information extra-financière. Ce qui veut dire donc, tout simplement, que si on regarde les responsabilités du comité d'audit ou du conseil d'administration relatives au processus et au contrôle de reporting, c'est une simple extension de ces éléments-là. Donc, quand je dis simple, ça veut dire que dans la réalité, ce n'est pas simple. Mais concrètement, le suivi du processus d'information financière et non financière ou de durabilité tombe sous la responsabilité du comité d'audit ou du conseil d'administration. Enfin, le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de la gestion des risques propres à l'entreprise doivent aussi couvrir les éléments du reporting de durabilité. Et comme je l'évoquais, en matière d'audit interne, les responsabilités actuelles du comité d'audit et du conseil d'administration sont étendues aux enjeux de durabilité, ce qui veut dire que le comité a donc la responsabilité de communication à l'organe administrateur et de surveillance des résultats du contrôle légal des comptes des audits externes, du suivi de ces contrôles-là et encore une fois l'indépendance des contrôleurs légaux qui ont été choisis. Le deuxième point relatif, donc du coup, deuxième exigence, deux points forts en fait lorsqu'on évoque le lien contrôle interne et CSRD, c'est effectivement les exigences de transparence en matière de dispositifs relatifs à la gestion des risques et au contrôle interne du processus d'élaboration de l'information de durabilité. Il est donc précisé dans l'élément GOV 5 du ESRS 2 que l'entreprise doit publier les informations sur les principales caractéristiques de son système de gestion des risques et de contrôle interne spécifique, propre à la procédure d'information en matière de durabilité. Pourquoi ? C'est évidemment pour faire comprendre les procédures de gestion des risques et de contrôle interne que l'entreprise a pu mettre en place en lien à son reporting. Et comment se traduisent ces exigences de transparence ? Il est important pour les entreprises d'apporter de la transparence sur 5 éléments. Le contenu et les principales caractéristiques de ce dispositif. Les fonctions, l'organisation, les attentes, les activités de contrôle. Bref, l'environnement qui est mis en place par ce dispositif. Les méthodes d'évaluation des risques. Il est important pour le dispositif de contrôle interne d'apprécier les différents risques en fonction de la donnée. Et on y reviendra dans la session aujourd'hui pour vous accompagner justement sur ces défis-là. Ensuite, il est important de considérer les principaux risques et les contrôles qui sont associés. Les risques relatifs à cette information extra-financière, et on y reviendra, mais c'est bien précisé comme une exigence de transparence que les entreprises devront respecter. Enfin, il est important de regarder le lien entre contrôle interne du dispositif de production du reporting extra-financier avec le dispositif et des fonctions internes propres à chaque entreprise. Et enfin, les risques la transparence sur le processus de reporting fait partie des éléments sur lesquels le contrôle interne est attendu. Dernier point pour faire le lien entre CSRD et contrôle interne au niveau des textes, comme je vous le disais, il est attendu une évolution progressive, un passage en assurance raisonnable. On passe d'une assurance limitée dès l'entrée en vigueur de la CSRD vers une assurance dite raisonnable à partir de 2028. Ce qui veut dire concrètement, pour le contrôle interne, une responsabilisation de plus en plus forte, parce que attendue du conseil d'administration, parce que définie dans les textes, et parce que c'est grâce aux travaux du contrôle interne que les auditeurs externes pourront s'appuyer les travaux de l'audit externe, parce qu'il est essentiel de garder en tête que, passant d'une assurance limitée à une assurance raisonnable, il y a bien entendu des changements qui seront importants en matière de profondeur et de nature des travaux. Aujourd'hui, les règles d'audit, les standards d'audit et les régulations de la profession d'audit changent et sont en train de s'adapter à ces nouvelles exigences. Mais ce qu'il est essentiel de garder en tête pour les sociétés, pour les entreprises, c'est qu'à partir du moment où il y aura une assurance raisonnable, c'est bien sûr un dispositif robuste de contrôle interne qu'il faudra pouvoir s'appuyer. Et cette exigence-là n'est finalement pas si contradictoire avec ce que l'on voit aujourd'hui avec le reporting financier. Pour revenir sur les exigences très spécifiques des textes, il faut revenir au niveau des standards. Il est précisé dans le ESRS 2, dans le SBM 3 et dans l'IRO 1, les exigences relatives au processus de double matérialité. On l'évoquait en introduction, l'exercice de double matérialité est structurant. Et les sociétés vont devoir être transparentes sur les enjeux qui sont du coup soumis à cet exercice, les impacts, risques et opportunités qu'ils ont été identifiés et évalués. Aussi, chaque société devra donc être transparente sur le processus qui est mis en place pour les identifier et les évaluer. Ce qui veut donc dire, pour le contrôle interne, l'importance de s'approprier de l'exercice et surtout d'aller commencer à regarder la description des méthodes, les hypothèses et les processus de décision qui ont été mis en place pour arriver au résultat. Par ailleurs, un certain nombre donc, d'éléments, et comme on l'évoquait, les risques propres à l'élaboration du dispositif du reporting de durabilité sont précisés par les textes et un certain nombre de risques sont donc à prendre en compte lorsqu'on évoque la mise en place du dispositif de contrôle interne du reporting. Le premier étant l'exhaustivité et l'intégrité de la donnée. Le deuxième étant l'exactitude des résultats et estimations qui seront fournis. Le troisième étant la disponibilité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en amont et en aval. Et ça, on sait, on pressent évidemment des difficultés sur ces éléments-là. Et enfin, la capacité pour les sociétés à avoir une information de qualité, mais en temps voulu et à disposition du reporting et de sa vérification en amont. Ces exigences donc, sont donc nombreuses. Les textes viennent préciser ce qui aujourd'hui relève encore du bon sens. Néanmoins, il est important de garder qu'au-delà des exigences du régulateur, d'autres régulateurs, d'autres organismes et institutions de place viennent pousser le même message. C'est le cas de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, qui, dans ses dernières publications, a réinsisté sur l'importance pour chaque entreprise de se doter d'un contrôle interne robuste sur son reporting de durabilité. Il est important donc du coup de garder en tête que ce n'est pas non seulement une exigence du régulateur européen, mais aussi une pratique de place reconnue qui est aujourd'hui plus mature certes sur le reporting financier, mais qui devra du coup demain s'appliquer sur un périmètre plus large et s'appliquer sur un dispositif de production du reporting de durabilité qui lui est spécifique.
Merci beaucoup Charlotte pour le rappel de ce contexte et l'explication de la nécessité du coup de parler, de s'approprier, de déployer du contrôle interne sur le reporting de durabilité. Mais du coup, quand on parle de contrôle interne, de quoi parle-t-on exactement? C'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble maintenant. Vous avez probablement pour les non-initiés des fonctions ou des personnes en charge du contrôle interne au sein de vos organisations, mais attention, quand on parle de contrôle interne, on ne parle pas d'une fonction ou de personne ou de responsabilité ciblée, on parle bien de tout le dispositif, tout le système qui est mis en place par le management pour répondre à ces trois objectifs que vous voyez ici, la sécurisation des opérations et l'efficacité opérationnelle, la fiabilisation de la qualité des informations qui sont utilisées en interne et publiées et le respect aux différentes lois et réglementations en vigueur. Donc, le contrôle interne n'est pas uniquement une fonction, c'est avant tout un dispositif mis en place par le management afin de finalement sécuriser ces risques, qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient de nature à sécuriser l'information financière et la qualité de la donnée financière, et on le verra financière jusqu'à aujourd'hui, mais aussi extra-financière, ou s'assurer de maîtriser la conformité de l'organisation aux différentes lois applicables. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un dispositif, c'est un système, c'est tout ce qui est mis en place par le management. Concrètement, comment ça se traduit ou ça s'opérationnalise? Évidemment, on pense en premier lieu au bloc que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire que quand on parle de contrôle interne, on pense à des contrôles, des activités de contrôle. Bien entendu, c'est un socle incontournable pour pouvoir structurer, déployer du contrôle interne. Ensuite, on ne fait pas des contrôles pour faire des contrôles. On fait des contrôles pour répondre à des risques. Donc, il y a vraiment cette approche risque qui est au cœur, justement, de la conception des dispositifs de contrôle interne. Ça, c'est évidemment, je le disais, un point incontournable et un socle incontournable. Ensuite, il ne s'agit pas uniquement du coup de ces contrôles, de ces réconciliations, revues, rapprochements, blocages automatiques, etc. On va attendre également, quand on parle de dispositif de contrôle interne, on va s'attendre à avoir également une culture d'entreprise, des normes, des modes de fonctionnement, des processus, des procédures, des rôles et responsabilités, une organisation qui soit favorable justement au contrôle et favorable à la maîtrise des risques au sein de l'activité. Donc, c'est important de bien englober également cette partie-là. Et pour être davantage précis et assez technique, et là, les initiés du contrôle interne s'y retrouveront, on souhaitait tout de même souligner le référentiel COSO, donc qui est le référentiel de place en termes de contrôle interne, un référentiel qui est né en 1992 et qui a été révisé depuis, avec son fameux cube COSO que vous voyez là. On retrouve sur le top du cube ces trois objectifs, hein, sécurisation des opérations, sécurisation du reporting, sécurisation de la conformité. Sur la face, sur le côté du cube, on voit les différentes strates organisationnelles dans le sens où le contrôle interne, une fois de plus, c'est de la responsabilité du management tout au long de l'organisation, finalement, à toutes les différentes streams organisationnelles de l'entreprise. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est développé aussi sur la droite, hein, ce sont les fameuses composante du contrôle interne définie par le référentiel COSO. On y retrouve l'environnement de contrôle, c'était le point que j'évoquais à l'instant, tout ce qui va être autour de la culture d'entreprise, des valeurs de l'entreprise, on parle de tone at the top, qui va finalement venir favoriser l'environnement de contrôle et la maîtrise des activités et des risques. En deuxième volet, l'évaluation des risques. Une fois de plus, on ne fait pas du contrôle pour se faire plaisir, loin de là, ou pour faire du contrôle. On fait du contrôle interne et des activités de contrôle pour répondre à des risques, avec le troisième bloc, donc les activités correspondantes pour répondre à ces risques. Et les deux autres, les deux derniers piliers, le quatrième sur information et communication, finalement, relève de toute l'animation du dispositif qui est nécessaire pour être efficace en interne, mais aussi la gestion avec les parties prenantes externes qui sont impliquées dans le dispositif de contrôle interne, et le pilotage, qui est là la supervision et l'évaluation de l'efficacité de l'intégralité de ce dispositif. C'est un petit peu conceptuel, mais c'est pour vous montrer ce qui est attendu derrière quand on parle de déployer et de décrire son dispositif de contrôle interne sur le reporting de durabilité. Et pour finir sur cette partie un petit peu théorique, et là encore pour le clin d'œil aux initiés, l'autre modèle qui est très connu et utilisé quand on parle de contrôle interne est le modèle des trois lignes de défense de l'Institute of Internal Auditor, qui vient là aussi modéliser, représenter les rôles et responsabilités autour du dispositif de contrôle interne. On parle du coup de trois lignes de maîtrise, trois lignes de défense. La première étant le management, donc une fois de plus le management opérationnel qui est la première ligne de maîtrise qui est en charge finalement de concevoir et de déployer et de s'assurer que les activités sont maîtrisées avec le niveau de contrôle adéquat. La deuxième ligne va représenter les fonctions support qui sont donc en support au management, en support à la première ligne, pour apporter justement les outils, apporter les approches par les risques, pour accompagner finalement le management dans la conception et le juste équilibre, le juste design et le fait d'avoir un dispositif de contrôle interne adapté, adéquat et pertinent. C'est donc la deuxième ligne de défense où on retrouve les fonctions justement, contrôle interne, risque, conformité et autres fonctions support qui jouent un rôle clé là-dedans. Ensuite, on a donc la troisième ligne de défense, de maîtrise, qui est l'audit interne, qui va avoir la responsabilité d'évaluer de manière indépendante le fonctionnement de tout ce dispositif et donc apporter un regard là indépendant et apporter du confort aux organes de gouvernance que vous voyez sur le haut de ce modèle, parce que donc c'est in fine les organes de gouvernance qui sont bien responsables de l'ensemble du dispositif, de superviser ce dispositif et de s'assurer donc de son efficacité et de sa mise en œuvre. Pour commentaire, également, on parle parfois de quatrième ligne de défense. Vous voyez sur la droite tout ce qui va être apport d'audit externe, donc pour les états financiers, bien entendu, les commissaires aux comptes, mais également les autres fournisseurs d'assurance externes qui peuvent jouer un rôle dans ce dispositif-là. Donc, après avoir vu justement là ces rappels sur la CSRD, pourquoi on vous parle de contrôle interne aujourd'hui et qu'est-ce que le contrôle interne, je me tourne vers toi, Corinne, pour que tu puisses nous partager justement au sein de Naval Group, quelle a été l'implication et quelle est aujourd'hui l'implication du contrôle interne dans le projet CSRD.
Quand j'ai entendu parler de la CSRD, j'ai tout de suite pensé contrôle interne puisque le contrôle interne a notamment pour rôle d'assurer la conformité réglementaire, mais je pense que j'ai vraiment compris l'enjeu. Il y a 18 mois, à la conférence IFACI, où j'étais venue assister à la présentation de Caroline sur la CSRD et le contrôle interne, et c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que le challenge, c'était vraiment d'étendre le système de contrôle interne que nous avions aujourd'hui et qui était focalisé sur la donnée financière, de l'étendre à ce qui était non financier. Notre objectif, alors pas tout de suite, mais notre objectif à Naval Group, c'est bien d'avoir à moyen terme un contrôle interne que les auditeurs certificateurs du pilier durabilité, sur lequel ces auditeurs vont pouvoir venir se reposer, exactement comme aujourd'hui, le commissaire aux comptes s'appuie sur notre système de contrôle interne pour les données financières et s'appuie sur les contrôles que nous faisons et que nous leur communiquons. Donc ça, c'est notre objectif moyen terme. Aujourd'hui, en termes d'organisation à Naval Group, l'équipe projet CSRD est sous le lead de la direction de la RSE, qui est au secrétariat général. Et cette direction a constitué une équipe projet intégrée qui réunit donc la direction RSE, la direction des risques et du contrôle interne, nous sommes aussi rattachés au secrétariat général, et la direction financière. Elle a établi une gouvernance avec un reporting auprès de nos deux sponsors leaders qui sont la secrétaire générale et le directeur général finance. Et puis, nous travaillons de concert maintenant pour être également en connexion avec les métiers. Et en ce sens, le directeur des ressources humaines, le directeur de la performance qui s'occupe de ce qui est achat, de ce qui est processus industriel et de la sécurité santé au travail, ainsi que le directeur technique qui s'occupe de tous les aspects produits vont également faire partie de cette gouvernance et de ce comité de direction CSRD. Je dois dire que j'ai de la chance parce que d'un point de vue risque et contrôle interne, on a une direction de la RSE qui est très au fait de ces questions puisque l'actuelle directrice de la RSE Naval Group est l'ancienne directrice des risques de Naval Group et son adjointe est l'ancienne responsable du contrôle interne de Naval Group. Donc, on a une équipe RSE qui est une extension, exactement comme la loi, hein, c'est une extension du management des risques et du contrôle interne Naval Group. Hein, et dans ce sens-là, nous avons des interlocuteurs qui comprennent parfaitement ce que nous voulons dire quand nous parlons contrôle interne.
Merci beaucoup Corinne pour ce partage d'expérience et on comprend là le lien étroit entre la RSE et l'équipe ton équipe risque contrôle interne et le fait que le contrôle interne soit vraiment au cœur de l'équipe projet de la CSRD. Je me tourne à présent vers Cédric. De la même façon, Cédric, peux-tu nous dire quelle est l'implication du contrôle interne dans le projet CSRD de Technip Energies?
Oui, bien sûr Caroline. Chez Technip Energies, quand on a commencé à parler du reporting CSRD, durabilité, les yeux se sont vite tournés vers les spécialistes du reporting, à savoir les financiers. Donc, ça nous est apparu assez naturel, finalement, d'avoir ce projet co-géré par la sustainability, mais aussi la finance, avec des sponsors, tous deux à l'executive committee, et pour la finance, ça a été notre CFO en personne. Fort soutien de notre CFO qui a libéré des budgets très rapidement pour le projet, y compris pour le contrôle interne, ce qui nous a permis de faire des embauches de jeunes diplômés, notamment avec la double qualification finance et sustainability, ce qui apporte beaucoup à notre projet actuellement. Technip Energies, par son histoire, a une forte culture du contrôle interne. En effet, on a été listé auprès de l'AICC pendant quelques années, et donc sujet à Sarbanes-Oxley. Donc, pour tous, il a été évident d'ouvrir immédiatement un volet contrôle interne au cœur du projet de reporting de durabilité. Et dans un premier temps, l'objectif qu'on s'est fixé pour ce volet contrôle interne, c'est de définir sa feuille de route et de constituer une équipe dédiée.
Merci beaucoup Cédric, c'est très intéressant d'avoir ce choix, cette expérience de Technip Energies, d'avoir tout de suite dédié des personnes et d'avoir bien identifié justement ce besoin de contrôle interne du reporting de durabilité. Je vous propose donc maintenant de commencer les sessions. Ah, pardon, avant cela en effet, on voulait là vous partager pour ceux qui ne l'auraient pas eu, des travaux qu'on a menés en collaboration avec l'IFACI. On a publié en fin d'année 2023 un guide justement pour aller un peu plus loin que ce qu'on va pouvoir vous partager là dans le temps restant sur les enjeux, les priorités et des recommandations très pratico-pratiques pour structurer et déployer un dispositif de contrôle interne sur votre reporting de durabilité avec également quelques points d'attention en cas réglementaire. Donc, on a fait ce guide, je le disais, sur la base aussi en travaillant en collaboration avec une vingtaine d'entreprises l'année dernière. Et il est structuré donc sur les 5 composantes du COSO. Et pour ceux qui connaissent bien le COSO, il est même décliné au niveau des 17 principes du COSO. Vous pouvez utiliser le code qui est affiché ici pour pouvoir le télécharger. Donc, je le disais, je vous propose qu'on rentre dans le vif, si je puis dire, du sujet avec nos différentes recommandations que l'on a organisées, comme vous le voyez là. Et on l'a vu dans cette première partie, le fait de devoir finalement définir et déployer un dispositif de contrôle interne est un chantier très structurant, très significatif. Et pour cela, il nous semble absolument essentiel de prioriser justement ces travaux sur le contrôle interne. Et je vais repasser la parole à Charlotte qui va nous partager les recommandations clés là-dessus.
Merci Caroline. Effectivement, vous le verrez avec les témoignages de Corinne et Cédric, les situations sont quand même très différentes au niveau de chaque entreprise. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même situation et les ambitions ne sont pas exactement les mêmes en termes de temps, en termes de ressources allouées. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moment du lancement de la CSRD, les pratiques sont encore très hétérogènes. On a identifié dans une étude qui a été réalisée il y a maintenant 2 ans avec l'IFACI à nouveau en partenariat, on avait identifié certaines pratiques qui étaient déjà en place sur des contrôles incontournables, des contrôles de cohérence, des contrôles en termes de limitation d'accès. Bref, il existe des pratiques aujourd'hui identifiées sur certaines sociétés en fonction de son ADN, sa culture et sa connaissance de ses risques. Ensuite, ce qui est tout à fait notable et remarquable, certaines sociétés, certaines entreprises ont déjà mis en place un certain nombre de contrôles embarqués dans les systèmes. D'autres entreprises ont fait le choix aussi de développer certains référentiels de contrôle interne qui sont dédiés ou alors avoir intégré dans leur référentiel de contrôle interne existant certains éléments qui sont relatifs aux enjeux de durabilité ou voire même au reporting de durabilité. Enfin, il y a de plus en plus, et Corinne l'évoquait dans l'importance de la collaboration entre les différentes fonctions, des initiatives d'audit interne, de contrôle interne et d'audit interne sur le processus de reporting. Et certaines sociétés aussi ont choisi de miser sur l'implication plus forte du comité d'audit sur le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, la situation reste quand même très, très hétérogène, comme je vous le disais. Le contrôle interne du reporting de durabilité reste non structuré, assez peu documenté. En termes de pilotage, on l'évoquera durant toute la webcast, l'importance pour les fonctions contrôle interne de s'impliquer, mais aussi pour les fonctions métiers, de prendre la responsabilité en matière de contrôle interne. Et enfin, d'assurer un dispositif de supervision qui aujourd'hui ne l'est pas encore, qui n'est pas encore tout à fait stabilisé. Mais une fois qu'on a dit ça, la difficulté, elle est bien sûr sur, OK, par où commencer ? Le chantier est vaste, les ambitions sont fortes et le calendrier est court. Aussi, nous sommes convaincus de l'importance de prioriser. Quelle que soit la taille de la société, quelle que soit la taille de l'entreprise, il est important de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de prioriser les travaux pour avoir une feuille de route durable qui soit acceptable et sur lesquelles les équipes en charge du contrôle interne ou les métiers en ayant des responsabilités de contrôle interne puissent monter en compétences. Parmi quelques réflexions pour commencer, ce qui nous semble intéressant, c'est pour le contrôle interne de s'intéresser au processus de double matérialité. On l'a évoqué, c'est un processus qui est structurant, mais il est déjà important pour toutes les fonctions qui sont en charge du contrôle interne de revoir le processus, de s'assurer qu'il est bien établi, qu'il est bien remonté au bon niveau et que toutes les décisions structurantes sont bien prises en compte en respectant bien entendu les exigences réglementaires, mais aussi les exigences en termes de contrôle de la qualité de l'information. Et deuxième élément, une autre piste aussi pour commencer les travaux, il est important de garder en tête, au même titre que l'information, que c'est déjà le cas pour le reporting extra-financier, on a avec le reporting de durabilité un sujet fraude, un sujet tentation de la fraude qui est aussi important. Et il me semble nécessaire pour les fonctions contrôle interne de jouer ce rôle d'alerte ou en tout cas de sensibilisateur des parties prenantes internes sur ce risque-là, notamment lorsque l'information de durabilité est accompagnée d'incentives, de rémunérations variables, de covenants bancaires sur lesquels il peut avoir du coup, pour ceux qui sont plus adeptes à ces concepts-là sur le triangle de la fraude, des leviers de motivation certains. Et enfin, la troisième piste qu'on peut vous partager aujourd'hui et qui est encore une fois issue des expériences qu'on a pu avoir dans les travaux présentés par Caroline, ce qui nous semble essentiel, c'est de développer une approche de scoping, c'est à savoir identifier parmi les informations de durabilité celles qui sont le plus exposées. Donc aussi, on vous invite à vous poser cette question-là, de regarder l'entièreté des informations à produire et de vous et de collectivement se poser la question des critères de qualité. Évidemment, la donnée ne sera pas aussi à risque, on va dire, si elle est produite en local, si elle implique les business units, si elle a la consolidation intermédiaire, si elle implique des mouvements et des systèmes différents. Aussi, il y a donc deux éléments à regarder lorsqu'on développe cette approche de scoping, les critères de qualité d'une part et les facteurs de risque. Ces deux éléments-là, et vous aurez donc dans l'étude la capacité de regarder plus en détail, ces deux éléments sont à analyser sur chacune des données, ou en tout cas chaque type de données, ou voire même enjeu de durabilité, afin de savoir, pour prioriser sur l'année 1, sur l'année 2, quelles seront les entités qui seront échantillonnées, quel type de contrôle, quel type de couverture vous souhaitez mettre en place. C'est essentiel de se donner des objectifs court, moyen, long terme, raisonnables et pragmatiques, d'une part pour pouvoir manger petit à petit le gâteau de la CSRD et surtout pour accompagner le changement avec les fonctions métiers.
Merci beaucoup Charlotte pour ces illustrations. Je me tourne à présent vers Corinne pour que justement tu puisses nous partager quel est l'apport de la direction risque et contrôle interne spécifiquement dans le projet de double matérialité.
Bon, alors tout d'abord, je rappelle que nous en sommes au début de notre démarche puisque ça n'est applicable à nous que pour janvier 2026 sur les données 2025. Mais cette mise en conformité de l'entreprise demande un important effort. Donc, j'allais dire que pour la direction de la RSE, nous nous mettons d'abord à son service. Et c'est vrai que s'il y a certaines tâches qu'elle peut nous déléguer, je pense qu'elle le fait avec plaisir parce qu'elle ne manque pas de boulot entre établir une gouvernance, se concentrer sur la chaîne de valeur. Donc, typiquement, par exemple, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est de regarder comment assurer une cohérence méthodologique entre notre propre méthodologie d'évaluation des risques, qui est déjà mise en œuvre, qui est bien connue, qui est maîtrisée par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, comment garder un vocabulaire aussi que tout le monde comprend, mais en même temps prendre en compte les exigences de la loi pour mieux préciser dans notre méthodo actuelle l'ampleur des impacts sur les parties prenantes, leur étendue sur les parties prenantes, introduire la notion d'irrémédiabilité. Donc c'est important et c'est bien sûr c'est une proposition que nous faisons à la direction RSE et que nous discutons avec elle, mais c'est vrai que le partage des tâches, ça permet d'absorber une partie de ce surcroît de travail. L'objectif de Naval Group, c'est vraiment un objectif de réutiliser l'existant autant que possible, donc de ne pas reconstruire de tout à zéro. Donc, la direction de la RSE, elle a déjà une stratégie RSE qui est validée et mise en œuvre et elle est déjà en charge de la DPEF, Déclaration de Performance Extra-Financière, et du plan de vigilance. Nous, à la direction des risques et du contrôle interne, on a déjà une cartographie des risques qui prend en compte les impacts financiers, mais qui prend aussi en compte les impacts sociaux ou les impacts de santé, sécurité, d'environnement. On a déjà dans notre cartographie des risques, bien sûr, pris en compte ce type de risque. On a également une cartographie des risques climat qui prend à la fois en compte les risques d'atténuation et les risques d'adaptation. Donc, puis je dis risque, je devrais dire risque et opportunité, puisque de toute façon, nous travaillons sur les deux côtés. Donc, l'idée, c'est vraiment à partir de tous ces éléments qui ont déjà été validés, de faire une approche top-down en partant du postulat que ces éléments validés vont très probablement être matériels dans l'analyse de matérialité. Parce que l'entreprise, soit parce que ce sont des éléments qui sont obligatoires, soit parce que l'entreprise a déjà identifié malgré tout ces impacts matériels. Cette approche top-down, elle va être complétée bien sûr d'une approche bottom-up. D'abord parce qu'il faut qu'on ait vraiment un processus traçable et systématique par ESRS et aussi parce qu'il y a probablement des domaines, certains ESRS, par exemple sur la biodiversité, où on a peut-être été moins exhaustif dans notre cartographie des risques actuels. Donc, on va bien faire cette approche top-down, bottom-up et c'est là où on peut vraiment travailler ensemble et s'assurer en permanence qu'on a cohérence entre les, qu'on garde une cohérence entre les évaluations qui sont faites via les ESRS, des impacts, et notre cartographie des risques groupes. Si on a incohérence, il y a une question à se poser. Et puis, si dans l'approche bottom-up, on trouve de nouveaux impacts matériels, effectivement, il faudra se poser la question de comment est-ce que j'adapte ma cartographie des risques. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main pour avoir un seul système et pour éviter d'avoir un système de management des risques très opérationnel qui est celui de l'entreprise et puis quelque chose d'un peu déconnecté et qui est juste construit pour la loi.
Merci beaucoup Corinne, on retient cohérence, efficacité, efficience et aussi la sécurisation de la traçabilité dans l'exercice. Je me tourne à présent vers toi Cédric, est-ce que tu peux s'il te plaît nous partager quelle a été votre approche justement pour initier le contrôle interne du reporting de durabilité?
Oui, bien sûr. Donc chez Technip Energies, on a rapidement pris la décision de travailler à des livrables concrets dès l'année 1, donc qui a été pour nous 2023, et dans un scope assez circonscrit à notre scorecard ESG et à un petit nombre de KPI CSRD qui avaient été confirmés lors de notre exercice de double matérialité. Donc, premièrement, travailler à des livrables concrets. Deuxièmement, utiliser les mêmes processus et outils que pour le contrôle interne sur le reporting financier. Alors bien sûr, nos travaux se sont inscrits ou s'inscrivent dans le cadre du référentiel COSO. Alors, qu'avons-nous fait concrètement? Premièrement, un état des lieux où l'équipe de contrôle interne s'est littéralement assise avec les personnes en charge de reporter les KPI du premier trimestre de l'année 2023 pour comprendre avec eux pas à pas le processus qui suivait pour calculer et reporter ces KPI. L'équipe de contrôle interne a pu, et comme c'est leur métier, identifier des potentiels manques et en discuter directement avec les gens en charge d'élaborer ces KPI. L'équipe de contrôle interne a aussi documenté avec eux, dans notre logiciel de contrôle interne, l'ensemble de ces processus. La deuxième phase, ça a été d'effectuer des tests, enfin je dirais plutôt des revues qualitatives où le contrôle interne a examiné ce qui a été fait le trimestre suivant en le comparant avec le descriptif que nous avons mis dans notre système de contrôle interne. Nous avons revu les pièces justificatives, nous avons engagé à nouveau avec les personnes en charge de reporter les KPI, fait des debriefings avec eux et discuté d'axes d'amélioration. Ce qui a été intéressant, pour finir, c'est qu'en faisant cela, le contrôle interne, qui fait aussi par ailleurs du contrôle interne sur les états financiers, a réalisé que l'environnement n'était pas le même, puisqu'évolutif. En effet, quand on regarde la scorecard, on peut mesurer un certain nombre de KPI au tout début de l'année et que ces KPI aient besoin de changer, d'être modifiés sur la fin de l'année, tout simplement parce qu'on a atteint des objectifs. Alors là, ça impacte le contrôle interne. Et c'est une nouvelle donne qui convient de prendre en compte. Je te repasse la parole, Caroline.
Merci beaucoup, Cédric. Merci pour ce partage, je pense, qui va inspirer beaucoup qui n'auraient pas initié la démarche. Je vous propose à présent de passer à la session suivante. On le voit, le processus du reporting de durabilité, là Cédric le disait à l'instant, est évolutif et complexe aussi. On a un point de départ, une matière finalement à contrôler si on compare à l'information financière qui est plus complexe, plus variée. Donc, il est essentiel pour nous de vraiment réellement travailler sur justement la compréhension de ce processus, la compréhension des flux de données. C'est d'ailleurs ce par quoi a commencé Technip Energies, comme le témoignait à l'instant Cédric. Pour nous, on voulait la rappeler, alerter la spécificité justement de ce processus de reporting de durabilité. On le décompose classiquement, nous, là, en deux grandes phases. Une phase de production d'indicateurs, où on va vraiment être sur le fait générateur, la source de données, finalement, qui peut être une consommation, une émission, des ressources utilisées, des ressources humaines, etc., où il y a un enjeu d'enregistrement, du coup, de cette donnée source et souvent d'agrégation sur une période donnée, puisque là, on se situe, du coup, au niveau le plus local de l'organisation et au fil de l'eau. On distingue cette première phase de la seconde qu'on appelle la processus de reporting qui va consister finalement en la collecte de ces données parfois locales, la consolidation et évidemment l'élaboration du rapport. Et autant on peut assez, j'allais dire, facilement avoir de la maîtrise sur la deuxième partie du process, avoir un certain nombre de contrôles, de cohérence, d'analyse de variation, etc., autant on ne peut pas avoir le confort attendu aujourd'hui dans la qualité de l'information reportée si on ne travaille pas sur l'amont du processus. Et c'est là, bien entendu, que le chantier est plus compliqué et plus large et du coup, sur lequel il est nécessaire de travailler au plus tôt. Donc, par rapport à cela, nos recommandations principales que l'on reprend ici sont avant tout de travailler, donc je le disais, à la compréhension de ces processus et donc, ça implique de le formaliser, donc documenter les processus, c'est-à-dire comprendre d'où vient la donnée, quels sont les différents acteurs, quels sont les différents systèmes d'information, est-ce qu'on est en local, en central, quelles sont les interactions, etc., afin de pouvoir après avoir, vous voyez là le deuxième point, avoir une analyse de risque, donc analyse d'écart, analyse de risque, il s'agit finalement de challenger ce processus, le processus actuel, et on y reviendra aussi sûrement, le processus cible pour toutes les données qui sont nouvelles, au regard du coup des risques qui sont auxquels ce processus est exposé, risque d'erreur, risque de non-exhaustivité. Charlotte rappelait les risques en introduction qui devaient être considérés, et regarder du coup si les pratiques actuelles, les contrôles actuels sont suffisants ou s'il est nécessaire de déployer et de mettre en œuvre de nouveaux contrôles. Pour faire cette documentation, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande question de à quel niveau on positionne cette analyse-là. C'est-à-dire que dans les travaux CSRD, beaucoup d'entreprises ont fait aujourd'hui des gap analysis au niveau des data points. Évidemment, sur les indicateurs quantitatifs, il y a un travail à faire au niveau de chaque indicateur pour clarifier les règles, etc., les différentes modalités de calcul, etc. Au niveau du contrôle interne, on cherche aujourd'hui, quand on commence à documenter les processus, on cherche le juste niveau de consolidation, le juste niveau de regroupement finalement de data points pour pouvoir faire cette documentation de process, sachant que la maille standard est parfois un peu trop englobante, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du standard S1 sur le Own Workforce, on a des sujets dans ce standard qui sont un peu trop variés et qui vont pas faire l'objet finalement des mêmes flux entre le sujet santé-sécurité, collaborateurs, diversité-formation. On va avoir finalement besoin potentiellement de modéliser différents flux de données, différents processus. Donc, le premier travail, là, selon nous, est de définir finalement les différents processus qui vont devoir être documentés. Et j'ai vu également qu'il y avait une question sur les données qualitatives. On y reviendra, mais avec peut-être des niveaux de granularité qui sont un peu différents entre les indicateurs quantitatifs et les data points qualitatifs. Et pour finir, le troisième point qu'on vous recommande ici, c'est de vous rapprocher de votre OTI, pour ceux qui en ont un, donc organisme tiers indépendant, l'auditeur actuel des DPEF, pour ceux qui sont soumis à actuellement la NFRD, puisque finalement, les auditeurs d'aujourd'hui ont déjà une certaine connaissance, un certain savoir sur ces processus-là. Il avait été remonté dans le groupe de travail avec l'IFACI la bonne pratique que pour les fonctions de contrôle interne ou pour les équipes projet CSRD de participer à certains audits sur site, pour là aussi comprendre finalement les processus de remontée au niveau, les processus de captation et d'enregistrement des données au niveau local. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, les audits sur site sont passés pour votre dernière année DPEF, mais on est dans une phase de restitution des conclusions de l'OTI, donc n'hésitez pas à aller vous approprier aussi les travaux de vos éditeurs et comprendre comment il est possible de capitaliser aussi sur cette connaissance et ces travaux. Je me tourne, pardon, on vous avait mis ici quelques, enfin une illustration hein, d'un diagramme de flux, donc d'une représentation des différents flux de données où vous voyez par grande étape, au niveau local, au niveau central, les différentes tâches système. Et on peut aussi, donc, pour ceux qui sont habitués à la démarche, hein, ces travaux après peuvent être très pertinents pour flaguer où se situent les principaux risques et où se situent du coup les contrôles correspondants. Je me tourne donc à présent vers toi, Cédric, pour que tu puisses nous partager comment vous travaillez justement sur la connaissance des processus de collecte et de reporting des données chez Technip Énergie.
Oui, alors chez Technip Énergie, Caroline, on a pour l'instant travaillé sur trois axes. Le premier, c'est l'implémentation des fondamentaux du reporting, à savoir simplement avoir un planning de reporting pour les KPI CSRD. Clarifier les rôles et responsabilités de chacun, y compris des reviewers. Et puis, ce que l'on fait aussi pour le reporting financier, faire des instructions de reporting, avec dedans certains rappels, comme bien garder les justificatifs, les rapports utilisés, les revues faites, etc. Ça, c'est le premier axe, implémentation des fondamentaux. Ensuite, on s'est attaqué à la feuille de route IT. Et on a réfléchi un petit peu à savoir comment on voulait, chez Technip Energies, que le processus de bout en bout de collecte des données se passe. Alors, on a fait un processus long terme, une vision plus long terme, avec en amont un certain nombre de solutions informatiques déjà existantes, dans lesquelles on va traquer notre performance HSE ou nos formations. Que ces logiciels soient quelque part interfacé avec une plateforme dans laquelle seront envoyées les données qui pourront éventuellement être calculées, remises en format. Et puis, depuis cette plateforme, interfacer les KPI avec une solution de disclosure que nous pensons importante, puisque nous en avons une pour nos états financiers, qui nous aide beaucoup aujourd'hui. Alors ça, c'est très ambitieux. Et donc, on a réalisé que dès le début, sur la première année ou la deuxième année peut-être encore, il y aurait un processus qui serait quand même en partie manuel. Néanmoins, ceci étant dit, nous avons décidé deux choses, même si on acceptait d'avoir du manuel sur le début, de travailler sur les logiciels en amont, donc je donne l'exemple du logiciel HSE ou du logiciel de suivi des formations, de travailler sur nos logiciels en amont sur la qualité de données avec des groupes de travail pluridisciplinaires, et puis d'implémenter sans attendre la solution de disclosure qui est le module ESG de Workiva que nous sommes en train d'implémenter actuellement. Toujours dans le cadre de la feuille de route IT, l'équipe de contrôle interne aussi a commencé à travailler autour des systèmes d'information utilisés, hein, comme c'est le cas pour les systèmes d'information que nous utilisons pour la production des états financiers, avec des contrôles basiques comme s'assurer qu'une revue des utilisateurs est bien faite, que les mises à jour d'upgrade de la solution soient réalisées dans les délais, du suivi de la gestion des incidents, ou encore les tests sur l'intangibilité des rapports utilisés. Trois axes, je disais au début, implémentation des fondamentaux, feuille de route IT, et le dernier, ça a été de demander très rapidement à nos auditeurs de faire, dès cette année, une revue beaucoup plus poussée de nos travaux. Caroline, je te repasse la main.
Merci beaucoup, Cédric, pour ces éléments et cette synthèse. Et je rebondirai notamment sur ton deuxième point sur la feuille de route IT, avec à la fois je fais une petite parenthèse sur Workiva pour vous inviter, pour ceux qui sont intéressés, à suivre une webcast qui est prévue la semaine prochaine, qui présente justement la solution Workiva et comment elle sert à apporter justement l'intégralité du processus de reporting de durabilité, donc en partenariat avec PwC. et rebondir sur ton point sur les, je vais utiliser l'acronyme pour les initiés, les ITGC, hein, initiés, ce contrôle interne sur les systèmes d'information qui est aujourd'hui quand même très peu développé, mais on le voit qui va être un véritable challenge justement pour sécuriser et avoir le confort attendu sur la qualité des données, notamment dans l'environnement IT actuel, tu l'évoquais, avec de multiples solutions finalement qui interviennent et qui sont aujourd'hui pas regardées, en tout cas pas contrôlées de la même façon que l'est le ERP ou le système comptable et financier. Merci beaucoup Cédric. Je me tourne donc à présent vers Corinne pour que tu puisses nous partager toi le retour d'expérience sur le processus de collecte des données extra-financières dans le cadre de la DPEF.
Merci Caroline. Bon, c'est bien parce qu'avec Cédric, j'apprends des tas de choses puisque nous ne sommes pas encore aussi avancés qu'on en est encore à l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que là encore, il est super intéressant de repartir de l'existant parce que dans l'entreprise, on a déjà des données disponibles et de bon niveau de fiabilité, notamment toutes les données qui concernent les collaborateurs de l'entreprise parce qu'on a un bilan social. Et puis, toutes les données qui sont dans le DPEF et qui sont déjà auditées par nos auditeurs. Donc, c'est vrai que ce set de données, on va pouvoir s'appuyer dessus pour la CSRD. Il existe aussi des domaines, par contre, où on a moins d'ancienneté dans la collecte des données. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la décarbonation, des impacts climatiques. Là, on va probablement avoir des écarts avec ce que nous devons fournir pour la CSRD. Mais en tout cas, on n'a pas forcément sur ce type de données ce que j'appellerais un système de reporting et de pilotage. Et je voudrais vous donner un exemple, parce que derrière la CSRD, c'est du reporting, mais c'est aussi, d'une certaine manière, un engagement de l'entreprise sur certaines trajectoires, puisque l'objectif de la CSRD, c'est bien effectivement de faire bouger les lignes. On a essayé sur le bilan carbone des déplacements professionnels des collaborateurs de la société de cascader, c'est un chiffre qu'on suit, hein, et on a essayé de cascader à certaines directions des objectifs de réduction du bilan carbone des déplacements professionnels des collaborateurs. Et là, on s'est rendu compte que même si on avait un chiffre global, on avait beaucoup de difficultés à cascader et à suivre, à piloter ce chiffre, parce que finalement, en cours d'année, les effectifs bougent, les organisations changent, certains voyages peuvent être commandés en dehors du système, et finalement, si on veut suivre les objectifs direction par direction, il faut faire du proforma. On n'a pas, entre guillemets, de compta ANA de la décarbonation. Donc, on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on adapte nos systèmes d'information et qu'on adapte. Mais là, quand je dis nos systèmes d'information, on n'en est pas aussi avancé de se dire qu'on veut tout dans un seul système, mais qu'on adapte la traçabilité de chacun de nos systèmes de remontée d'information. Et pour cela, on va analyser les écarts et s'appuyer sur notre réseau de contrôleurs internes, parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il va falloir aller chercher de la donnée qui est dans les usines, qui n'est peut-être pas forcément aussi proche de la finance que d'habitude, et que s'appuyer sur un réseau de contrôleurs internes, ça va nous aider à avoir des gens qui vont comprendre le niveau de qualité de la donnée que l'on attend.
Merci beaucoup Corinne pour ce partage qui va peut-être en effet rassurer certaines personnes qui nous écoutent par rapport à l'avancement de Technip Énergie. Tous ne sont en effet pas à ce niveau-là, mais il est important, on le voit, que le contrôle interne soit impliqué justement dans ces états des lieux et soit impliqué sur ces travaux pour bien comprendre le processus de collecte et de reporting des données extra-financières. Je vous propose à présent de rentrer dans notre dernière section sur comment finalement matérialiser, comment structurer le dispositif de contrôle interne. On va voir du coup que Charlotte le disait en introduction, il y a des pratiques de contrôle interne, mais pas aujourd'hui suffisamment organisées, documentées pour pouvoir être considérées justement aussi par l'audit et pas un niveau du coup qui permette d'avoir du confort sur son correct déploiement. Donc, c'est une étape essentielle passer par la documentation et la matérialisation de ce dispositif. Et donc, pour cela, je passe la parole à Charlotte.
Merci Caroline. Effectivement, raconter une histoire en matière de durabilité, ça veut dire gagner la confiance de ses parties prenantes sur ce qui est dit. Et pour apporter de la confiance, ça doit se reposer sur des éléments probants, sur des éléments de preuve. Donc si on résume l'importance de la documentation du contrôle interne, notre conviction, c'est que ce contrôle interne permet, la documentation permet d'une part, déjà, premièrement, de faire connaître les attendus du contrôle à l'ensemble des contributeurs. On parle d'un système, d'un process complexe avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de données différentes. Premier point, il faut donc documenter ce qui est attendu des activités de contrôle et des chacun. Deuxième élément, on l'évoquait, il est important de documenter les flux et d'organiser justement ces flux-là et de les poser avec des process et avec des documents qui puissent être stabilisés dans le temps, notamment pour répondre aux enjeux de turnover ou de transfert de savoir et de compétences. Et enfin, la documentation du contrôle interne permet aussi d'apporter du confort en interne, mais aussi, comme on l'évoquait, sur les parties prenantes externes, à savoir les auditeurs externes, votre OTI, ou voire même votre comité d'audit ou autre organe du comité du conseil d'administration qui pourrait, du coup, qui sera responsable de la surveillance de l'ensemble. Aussi, lorsqu'on parle de documentation, encore une fois, il faut être pragmatique et certaines bonnes pratiques nous ont été évoquées dans nos échanges avec les entreprises et sur lesquelles on souhaite revenir aujourd'hui. Premièrement, établir les rôles et responsabilités. Cédric l'évoquait, mais qui produit l'information, qui la revoit, qui la contrôle, qui est informé ? Il est donc indispensable, quelle que soit la taille de votre entreprise et quelle que soit la donnée de durabilité que vous allez devoir reporter, d'établir un RACI du processus de reporting de durabilité. Vous verrez juste après un exemple, mais vraiment être très clair sur quelles sont les contributions de chaque acteur de la société, de votre société, dans ce processus-là. Enfin, une petite bonne pratique, c'est une fiche KPI. Pour les entreprises qui sont aujourd'hui soumises à la DPEF, on parle de protocole de reporting. C'est le premier élément que votre OTI vous demande lorsque, en amont des travaux du reporting de durabilité. Donc, établir une fiche KPI, de savoir de quoi on parle, quel indicateur, comment il est traduit, bien comprendre les exceptions, les périmètres de couverture de ce calcul sont essentiels, d'autant plus quand on parle de bilan carbone ou quand on parle de diversité et d'inclusion ou alors d'alerte éthique. La mesure de ces indicateurs est essentielle, il faut donc du coup établir la documentation pour que ça soit compréhensible pour tous. Et enfin, je l'évoquais, il est important de documenter les activités de contrôle, les attendus, et que ces éléments-là s'intègrent dans un dispositif plus large, dans un référentiel de contrôle interne qui soit propre à toute société ou alors plus spécifique au reporting de durabilité. Et dans cette slide, dans la slide suivante, vous allez voir deux petites illustrations. C'est vraiment ce qu'on reprend. Le RACI doit être complet, il doit être détaillé. C'est un RACI qui définit la production de l'information, le calcul de l'indicateur, le reporting. Et on intègre bien toutes les fonctions. Vous retrouverez cet exemple-là dans l'étude. Et en termes de fiches KPI, pas besoin de faire un document de 36 pages que personne ne lira. Certains indicateurs sont plus compliqués que d'autres. Néanmoins, toujours clarifier la règle. Les règles de calcul, les exceptions et l'usage de l'information qui en sera produite. Ça nous semble essentiel et sont des éléments indispensables pour apporter de l'assurance sur l'information qui sera produite.
Merci beaucoup Charlotte pour ces exemples et ces illustrations très concrètes pour documenter le contrôle interne. Je me tourne à présent vers toi Corinne pour que tu puisses nous partager votre première initiative pour structurer justement le contrôle interne du reporting extra-financier.
Alors, notre toute première initiative, ça a été une fois de plus de repartir de l'existant. On partage avec la qualité un système de contrôle interne et de conformité au Business Management System de Naval Group, qui est fondé sur 400 exigences et sur un programme pluriannuel de contrôle qui est réalisé par les différentes secondes lignes de maîtrise. Donc, notre première initiative, ça a été d'identifier parmi ces 400 exigences lesquelles sont liées aux piliers de durabilité. Et on peut dire que c'est plutôt une bonne surprise parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de ces exigences qui vont nous donner du confort sur des éléments qualitatifs comme la mise en œuvre de politiques et leur respect dans nos entités, que ce soit la politique zéro accident du travail ou la politique anticorruption. Ce contrôle interne, il nous permettra également. Il peut aussi être à l'origine de ce qui va devenir des indicateurs. Je reprends, on a effectivement une exigence qui aujourd'hui est suivie et contrôlée par la seconde ligne SST, que tout nouvel embauché ou tout salarié prenant un nouveau poste de travail doit recevoir sa formation santé sécurité à son environnement de travail dans la semaine qui suit son arrivée. Et on a effectivement cette exigence et des contrôles qui sont faits pour savoir si c'est fait dans la semaine, dans le mois, dans les trois mois. Alors, ça n'est certainement pas un indicateur qui, pour lequel toutes les règles de contrôle interne, en tout cas, quand je dis certainement pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment il est construit. Je sais qu'il est vérifié. C'est peut-être un des indicateurs qu'on gardera dans la CSRD quand on fera l'analyse des cas. Mais c'est juste pour dire qu'on a aujourd'hui un système avec déjà du pilotage opérationnel sur un certain nombre de données. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est données fournisseurs. Effectivement, là, on va pouvoir s'appuyer sur ce qu'on fait déjà sur le plan de vigilance, mais je comprends les questions, c'est plus difficile dans ce sens-là. Et puis, j'allais dire qu'on va vraiment travailler avec la qualité parce qu'on se rend compte que sur le pilier durabilité, il y a beaucoup de données qui sont très proches des usines sur la consommation d'énergie, les mesures anti-pollution. Et tout ça, c'est vraiment au cœur de processus qui sont aujourd'hui beaucoup plus du domaine de la qualité parce que proche de la production, alors que le contrôle interne se concentrait jusqu'à présent plus sur le processus management des affaires, obtenir des contrats, finances, achats. Donc, il va falloir qu'on voit et qu'on poursuive plus avant notre collaboration avec la qualité. Et on leur en a déjà parlé et on commence à réfléchir à la chose. Voilà.
Merci beaucoup Corinne, on retient en message principal hein, toujours utiliser l'existant, il y a des choses qui sont utiles, il va falloir le faire évoluer, le compléter, l'adapter, mais on a forcément une base qui est pertinente sur laquelle s'appuyer pour structurer la suite. Je me tourne à présent vers toi Cédric pour que tu puisses là aussi nous partager ton retour d'expérience sur ces premiers travaux menés sur le contrôle interne.
Oui, Caroline. Bah, après quelques mois, l'équipe de contrôle interne a fait quand même un constat, et je vais relever trois choses. Tout d'abord, le processus de collecte des KPI n'était pas suffisamment documenté, et lorsque la documentation existait, elle n'était pas normalisée. Donc là, c'est quelque chose auquel on a remédié, comme je l'expliquais tout à l'heure, lors des walkthroughs, et de la documentation des process dans notre logiciel de contrôle interne. La deuxième chose, qui n'aurait pas dû être une surprise, mais qui m'a quand même personnellement surpris, c'est que la notion de cut-off est méconnue des gens en charge de reporter les KPI CSRD. Nous, les comptables, on a l'habitude de fermer nos périodes les unes après les autres et de pouvoir extraire la donnée des périodes fermées à une date et à un instant T. Pour bien des solutions qu'on utilise pour traquer nos KPI CSRD, je reprends mon exemple hein, de la performance HSE ou du learning, il n'y a pas cette notion de période, il n'y a pas la possibilité de figer à un instant T le reporting. Donc, il est extrêmement important que les reporters en soient conscients et qu'ils gardent les impressions d'écran des requêtes faites lorsqu'ils doivent reporter un KPI à un instant donné, à la fin de chaque trimestre, par exemple. Troisième constat, c'est que la revue indépendante des KPI, elle n'est pas systématiquement documentée ou même effectuée dans les délais. Donc, je pense que le contrôle interne a fait ces constats et qu'il a été essentiel pour nous qu'il soit impliqué dès le début parce qu'il a permis de faciliter la mise en place de ces réflexes nécessaires qui ne sont pas toujours des réflexes dans les gens qui ne sont pas financiers de métier. Et ces réflexes, ils seront en fait d'autant plus nécessaires à moyen terme que le contrôle interne pour le reporting de durabilité couvrira non seulement la disclosure quantitative, mais aussi la disclosure qualitative qui doit, comme vous le savez, à terme représenter à peu près 80% de la disclosure dans un reporting de durabilité. Voilà, Caroline.
Merci beaucoup, Cédric, pour ce retour d'expérience. On a déroulé les différentes parties un peu théoriques et les différentes recommandations qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Pour rappel, on a ces recommandations et d'autres qui sont détaillées dans le guide que l'on a publié en collaboration avec l'IFACI il y a de ça quelques mois. Et je vous propose maintenant de conclure avant d'utiliser le temps restant pour les questions-réponses que vous avez pu nous partager. Et pour conclure, je me tourne vers Corinne pour que tu puisses partager les messages que tu souhaites adresser aux personnes responsables des projets CSRD.
Alors, d'abord, rappeler que nous, notre premier objectif, c'est un objectif de conformité réglementaire. Voilà, on reste modeste en la matière. Et pour y arriver, la direction RSE a établi un plan structuré sur la base de 2 fois 6 mois. 6 mois pour vraiment identifier les enjeux, décrire les IRO, les évaluer, enfin les impacts, risques et opportunités, pardon, les évaluer en prenant en compte les parties prenantes, définir qu'est-ce qui est matériel et identifier les écarts. Et puis 6 mois réellement pour dérouler les plans d'action de mise en conformité et dérouler ce plan d'action de mise en place du contrôle interne de la donnée non financière. Le tout, bien sûr, avec des étapes progressives de validation. Après, si je vais faire la voix de cette directrice, parce que son approche, c'est vraiment de partir de l'existant, et on a vraiment insisté dessus. C'est pas seulement parce que c'est plus pratique, c'est aussi pour faire une CSRD qui a du sens, parce que quelque part, c'est une CSRD qui va s'appuyer sur le pilotage de l'entreprise. Bien sûr, elle va venir de le compléter parce qu'on ne prétend pas piloter avec toutes les données que la CSRD nous demande, mais c'est quand même mettre au cœur de la CSRD ce qui est déjà dans le pilotage de l'entreprise, puisque finalement, cette réglementation, il est important de lui donner du sens. Il faut se souvenir que une entreprise qui est à même de prendre en compte les 3 critères « people, planète, profit » dans ses décisions, c'est quand même une entreprise qui normalement va avoir de la pérennité, va avoir de l'attractivité particulièrement auprès des populations jeunes et va être dans un cycle durable.
Merci Corinne pour ce message de conclusion et pour rappeler hein, le sens de la CSRD et au-delà de l'aspect conformité, finalement les attentes qu'il y a sur ces données de durabilité et donc derrière le besoin de fiabilité qui est de plus en plus fort pour pouvoir avoir des données de qualité et réussir à donner confiance sur ces dimensions de développement durable. Cédric, à présent, je me tourne vers toi avec la même question. Quel message de conclusion souhaites-tu adresser aux personnes en charge des projets CSRD ?
Alors, ça va être un message assez bref. Et assez simple. L'objectif du contrôle interne, c'est de permettre au management de dire que ce qui est reporté est correct. Donc, je dirais qu'il faut se lancer sur le volet contrôle interne pour la CSRD dès le début, sans attendre. Il faut vraiment voir cela comme un investissement, comme un facilitateur au changement, parce que les changements seront nécessaires pour l'amélioration de la qualité de la donnée. Voilà.
Merci beaucoup Cédric. Je compléterai ce mot de la fin avec les quelques messages que vous voyez affichés ici. On l'a vu, hein, on ne fait pas du contrôle uniquement parce que c'est demandé, parce que c'est exigé ou parce qu'il faut en faire, mais bien pour sécuriser. Et je le redisais à l'instant, l'attente sur la qualité de la donnée liée à ces enjeux de développement durable est de plus en plus forte et le contrôle interne est clé pour apporter cette confiance-là, pour apporter cette sécurité-là. Ensuite, on l'a également dit à plusieurs reprises durant la session, le chantier est important et donc il y a les 3 messages suivants que l'on porte. Le premier étant ce qu'on appelle mettre du contrôle by design, c'est-à-dire que on le voit, la CSRD impose énormément de nouveaux data points, de nouveaux indicateurs, de nouvelles données à reporter, donc potentiellement de nouveaux processus à déployer pour aller collecter ces données-là. Il est essentiel de considérer le contrôle interne, de le penser, de le concevoir, de le le déployer au moment même où on conçoit, on déploie ces nouveaux processus. Parce que le faire après sera évidemment une perte d'efficacité énorme pour les entreprises. Donc, on vous engage sincèrement à embarquer le contrôle interne au plus tôt dans vos projets contrôle interne pour qu'ils puissent être pensés et conçus en même temps qu'on pense et qu'on conçoit les nouveaux process pour les nouvelles données. Pour être efficient, on l'a également répété à différentes reprises, il y a beaucoup de choses sur lesquelles capitaliser, les outils, les systèmes, etc. Donc, utiliser tout ce qui est existant en termes de méthodologie de contrôle interne, en termes aussi de pratiques actuelles pour votre reporting actuel, il y a des choses sur lesquelles leverager et il est important de le faire. Et enfin, étant donné qu'on est sur un projet et un chantier significatif, il faut prévoir une approche progressive. Et donc, cette approche progressive, on vous recommande là encore vivement de la penser avec une approche par les risques. Charlotte le disait, il est important, on n'a pas le même niveau de risque selon les différents indicateurs que l'on doit couvrir, selon les différentes données. Et il est important de sécuriser au plus tôt ce qui est le plus matériel, le plus stratégique et ce qui est le plus risqué. Donc, construisez cette approche de scoping pour pouvoir commencer par le plus important et vous apporter un maximum de confort dès les premiers efforts. Je vous propose donc de passer à la session questions-réponses. On en a différentes. Il y en a plusieurs qui sont revenus sur comment challenger les données remontées par les fournisseurs. Alors, il y a eu différentes formulations de cette question sur finalement les données de la chaîne de valeur. Sur ce point, on y revient un peu plus en détail dans le guide. On distingue sur le volet fournisseur deux types justement de fournisseurs. Il y a vraiment les fournisseurs sous-traitants qui vont participer à produire une partie de votre reporting de durabilité, donc qui traite de la donnée pour le compte de l'entreprise. Et en général, ce que l'on peut voir justement sur ces profils de prestataires, on a une attente de plus en plus forte justement de leurs différents clients et donc des approches d'assurance d'audit externe qui se développent de plus en plus. C'est ce qui permet à ces fournisseurs-là de donner de la confiance sur la maîtrise de la qualité des données qui produisent pour le compte de leurs différents clients. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander à vos fournisseurs de faire. Et ensuite, pour les fournisseurs juste, j'allais dire, dans une relation contractuelle qui n'est pas ce cas spécifique, sur lesquels vous allez devoir utiliser des données qu'ils vous transmettent. Là encore, l'approche d'audit peut être utilisée avec des approches d'audit externe différentes, avec des rapports d'assurance en l'occurrence différentes. Et on voit aussi de plus en plus se développer des partages d'exigences justement de qualité, d'exigences de contrôle interne et d'exigences de reporting avec notamment le fait de devoir reporter les éventuels dysfonctionnements qui ont été identifiés par ces fournisseurs-là sur les dispositifs. Donc, des pratiques beaucoup tournées sur l'audit, donc ça implique de devoir demander à vos fournisseurs soit de l'audit externe, soit d'intervenir en audit sur le sujet, ou déjà commencer par le cadre contractuel. On avait également plusieurs questions sur la différence, ou en tout cas comment adresser spécifiquement le contrôle interne sur les données qualitatives versus les données quantitatives. Et sur ce point, Charlotte, je te laisse apporter des éléments de réponse.
Merci Caroline. Et effectivement, ce ne seront que des éléments de réponse, car encore une fois, lorsqu'on évoque l'importance du contrôle interne, c'est de s'adapter aux risques, aux enjeux, aux facteurs de risque des différentes informations. Mais si quelques petits conseils, quelques réflexions aujourd'hui des pratiques observées en matière de qualité d'information qualitative. La première question et l'apport du contrôle interne serait de vérifier premièrement l'existence des politiques, des actions qui sont développées. Donc, vérifier que ce qu'on dit est vraiment vrai, y compris le qualitatif, surtout quand il y a du narratif. Donc, vérifier l'existence, vérifier l'exhaustivité de ses politiques, de ses engagements, de ses plans, leur alignement entre effectivement des politiques décentralisées au central, voire la cohérence des différentes composantes, parce qu'il est quand même très rare aujourd'hui d'avoir une politique qui s'applique de façon homogène et arbitraire à l'ensemble des entités, des business units d'une même entreprise. Donc existence, exhaustivité, cohérence en interne, mais cohérence aussi avec les exigences définies par les textes, ou alors cohérence avec les alignements, les engagements publics que l'entreprise se sera fixé. Et enfin, le dernier point sur lequel le contrôle interne, et là notamment la fonction contrôle interne ou les réseaux, les acteurs du contrôle interne, notamment les réseaux au plus opérationnel, ont un rôle à jouer pour challenger le niveau de connaissance des acteurs et des parties prenantes internes sur ces politiques, sur ces engagements, sur toutes ces actions qui sont qualitatives et pour lesquelles l'interprétation individuelle est plus importante que sur le quantitatif. Donc, existence, exhaustivité, cohérence et connaissance sont des éléments qui, a priori, pour lesquels le contrôle interne a vraiment un rôle à jouer sur l'information qualitative. Mais encore une fois, ce n'est ni exhaustif et je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques qui existent dans les différents contextes et entreprises.
Merci beaucoup, Charlotte. Je vais prendre quelques questions très précises et techniques qui seront rapides. Il est demandé, est-ce que chaque entreprise détermine elle-même son seuil de matérialité? Donc, la réponse est oui, même ses seuils de matérialité pour l'exercice d'évaluation selon la double matérialité. Il y a un seuil de matérialité d'impact et un seuil de matérialité financière qui doivent donc être définis par chaque entreprise. On avait une question aussi assez précise sur la responsabilité du comité d'audit. Donc, on a en effet la CSRD qui prévoit que les nouvelles responsabilités relatives à la supervision du reporting de durabilité soient attribuées au comité d'audit. Et qui prévoyait donc au niveau de la directive que les États membres, lors de la transposition de la directive au niveau national, puissent ouvrir la possibilité que ces nouvelles responsabilités soient portées directement par le Conseil lui-même ou que le Conseil décide de déléguer ces nouvelles responsabilités à un autre comité du Conseil que le comité d'audit. Et en France, donc dans la transposition a été publiée en décembre, Charlotte le rappelait, cette possibilité offerte par la CSRD a été retenue, c'est-à-dire que donc en France, les conseils d'administration peuvent décider de conserver ces responsabilités sur le reporting de durabilité en propre ou de les attribuer à un autre comité du conseil. Et le débat qu'on observe beaucoup aujourd'hui est l'organisation entre les comités RSE, développement durable lorsqu'ils existent, et les comités d'audit. On avait une question relative au profil pour les contrôleurs internes en charge du contrôle de la CSRD. Cédric nous partageait son expérience avec des profils qui avaient la double compétence sustainability contrôle interne. Qu'ils aient un background d'un côté ou de l'autre, c'est sûr que l'intérêt et le besoin va être de mixer ces deux compétences. Donc, une nécessité soit de former au contrôle interne, soit de former aux enjeux de développement durable et plus particulièrement donc aux aspects CSRD, donc à la connaissance des ESRS, des data points, du mécanisme, des exigences, de la lecture des ESRS qui semblent nécessaires. À ce titre, on avait une question sur les formations et ma foi, je ne pourrais que vous recommander de suivre les rendez-vous du reporting de durabilité pour avoir justement une bonne actualité, une bonne connaissance des différentes exigences réglementaires sur le sujet vraiment reporting de durabilité. On avait une question également, je me permets une dernière question sur comment la CSRD peut permettre d'anticiper la CS3D, donc la CS3D qui est la directive européenne, si je simplifie, donc à venir on connaît en France la loi sur le devoir de vigilance, donc qui va plutôt requérir que les entreprises préviennent les risques relatifs au développement durable, là où la CSRD est vraiment concentrée sur le reporting. En revanche, le lien, il est évidemment très fort, puisque le périmètre, finalement, les périmètres couverts par la CSRD et la CS3D se rejoignent. Et tout le travail qui est fait pour la CSRD d'identification des impacts négatifs, des impacts potentiels négatifs et des impacts négatifs va être finalement le point de départ aussi de l'approche de due diligence, de sustainability due diligence, et donc va permettre aux entreprises d'avoir une meilleure connaissance et qualification des différents impacts négatifs potentiels qu'elles peuvent avoir sur l'ensemble des parties prenantes, sur l'environnement et sur les personnes. Donc ça vient finalement initier cette démarche-là et préparer en ce sens à la CS3D. Je scanne rapidement les questions, mais je pense qu'on a fait le tour des principales. Sachez dans tous les cas qu'on vérifiera le fait qu'on ait répondu à toutes les questions, et autrement on fera des réponses spécifiques à celles-ci si on n'a pas pu les aborder. Je vous propose donc de clôturer cette webcast en vous remerciant vivement pour votre attention, en vous invitant à rester quelques secondes connectés afin de répondre à un questionnaire de satisfaction sur ce webcast. On est toujours très preneurs de vos retours pour améliorer cette série. Et pour les participants PwC, vous avez le code ATHEN qui s'affiche ici et que vous pouvez utiliser. Un très grand merci à tous et très bon après-midi.